Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Bon, on parle de ces règles de magasinage qui ont été resserrées pour le temps des fêtes avec Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges de Silva, bonjour.
Bonjour, Madame Peterson.
Bon, avant de plonger dans le magasinage, Roxane, parlons tout d'abord du nombre de cas aujourd'hui. 1514 nouvelles infections. C'est un record depuis le début de la pandémie, là.
En effet, c'est un record et c'est un peu décourageant de voir ces chiffres-là qui continuent d'augmenter et surtout l'augmentation en fait qu'on voit dans les régions qui n'étaient pas tant touchées jusqu'à présent, comme le bassin Laurent ou la Gaspésie, où on voit une forte augmentation.
Ben oui, puis c'est à l'approche aussi des fêtes de Noël. Le premier ministre Legault qui nous disait, écoutez, on s'en va pas dans la bonne direction. Je pense que les chiffres d'aujourd'hui confirment ça. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller dans les prochains jours. Mais à date, ça regarde pas du tout bien pour la décision qui va être rendue le 11 décembre. Selon moi, on s'attend à l'annulation des festivités, non?
Oui, en fait, je pense que ça serait une bonne solution dans la mesure où, avec toutes les sorties qu'on a vues dernièrement, mm-hmm. toute l'augmentation des cas et on voit que dans les hôpitaux, ça va pas super bien, que ce soit pour le nombre de lits occupés ou les urgences ou même les ressources humaines, mm-hmm. les travailleurs de la santé. Donc, dans ce contexte, ça serait peut-être la meilleure décision à prendre que d'annuler toutes les fêtes pour éviter de contaminer des personnes plus vulnérables, mais surtout pour éviter de se retrouver mm-hmm. 4 semaines après au salon funéraire. À cause de la contamination pendant les fêtes.
Ben oui, effectivement, on veut vraiment pas ça. Mais on veut magasiner, paradoxalement. C'est ce que je trouve un peu ridicule. Beaucoup de gens désirent aller dans les commerces de façon physique, même si c'est possible quand même de faire majoritairement nos achats en ligne. Mais toujours est-il que on nous met aujourd'hui de nouvelles balises. Plusieurs Québécois vont devoir se coltailler avec des files d'attente durant leur magasinage des fêtes. Par contre, en entendant ça ce matin, quand j'entendais Mme Guilbeault parler de ces mesures-là, parler des amendes aussi auxquelles s'exposeraient les commerces qui ne respecteraient pas ça, c'est-à-dire de contrôler le nombre de personnes à l'intérieur et de ne pas afficher le nombre de personnes maximales admises à l'intérieur, je me disais, il me semble que depuis le début de la pandémie, les centres commerciaux ne sont pas particulièrement reconnus pour être des lieux d'éclosion.
C'est pas vrai parce qu'au 30 septembre, la directrice régionale de santé publique, là, le docteur Drouin, énonçait que sur l'île de Montréal, un quart des éclosions se retrouvaient dans les milieux de travail, se situaient dans les magasins de détail. Donc, on a quelques données quand même qui montrent qu'il y a des éclosions dans ces milieux-là. C'est les seules données que j'ai trouvées. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un outil qui a été développé justement des risques associés suivant le travail qu'on fait, associés à les risques de contamination ou d'attraper la COVID suivant le travail qu'on fait. Un outil qui a été développé par ma collègue Marie Connolly et qui est disponible sur le site web du Cyrano. Et en fait, on voit que le risque pour les gens qui travaillent dans les représentants, les vendeurs, les gens qui travaillent dans le commerce de détail, le risque est quand même d'un niveau 62, comme elle dit, sur 100, ce qui est en fait un risque qui est qualifié de moyen à élevé, élevé même. Donc, on voit quand même qu'il y a un risque pour ces travailleurs-là et il y a un risque aussi pour les personnes qui y vont. Puis, de toute façon, il faut toujours revenir à ces règles de base qui sont dans un milieu clos, sans masque, sans distanciation, sans lavage des mains, avec beaucoup de personnes sur place, on a de très gros risques. Donc, moins ces mesures-là sont respectées, plus on a des risques. Et les magasins, c'est clairement un endroit, même si les espaces sont ventilés, où on peut accumuler beaucoup de personnes, où le port du masque peut être moins bien respecté.
Oui.
La distanciation également, on maximise le nombre de contacts, on se lave pas toujours les mains et là on part une éclosion. Donc c'est très dangereux quand même.
Oui, puis je me posais la question, moi je suis allée au centre commercial 2 fois. Depuis que c'est rouvert, dont une fois dans un grand magasin où on pouvait essayer des vêtements. Et rendu dans la cabine, parce que tout avait l'air super bien organisé, on faisait la file, on nous assurait que les vêtements étaient placés en quarantaine. Et dans l'autre magasin où j'ai été, les vêtements étaient désinfectés avec un steamer, là, une machine à vapeur. Ouais. Mais toujours est-il que j'étais dans la salle d'essayage, puis je me disais par rapport aux fameuses gouttelettes, là, ce qu'on a découvert cet été avec l'OMS, là, c'est-à-dire que ça peut se transmettre dans l'air, les aérosols. Je me disais, mais si quelqu'un a toussé une minute avant moi dans la cabine, mettons, là, on jase pour être bien paranoïaque, je me sentais pas si en sécurité que ça, finalement.
Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est vraiment pas quelque chose que je ferais en ce moment d'aller essayer des vêtements dans une cabine. Puis, au-delà des aérosols, il y a aussi le fait de toucher les surfaces, donc toucher la porte d'entrée, la poignée de la cabine, le loquet, s'il y en a un.
Mais il désinfecte entre chaque client, par contre.
Ah bon, ok, bon, tant mieux. Mais bon, moi, je sais qu'il y a des grandes chaînes de magasins qui ont interdit l'essayage sur place et qui proposent aux gens d'emporter le linge et qui peuvent le retourner dans les 30 jours et être remboursés. C'est une autre option aussi qui est possible, mais moi, je recommande vraiment pas d'essayer les vêtements sur place. Puis, quant à la décontamination par la vapeur, c'est certainement une bonne chose, mais est-ce qu'elle est bien faite? Il y a des mesures particulières à respecter par rapport à ça.
Non, on s'entend là que c'était vraiment pas ISO 9002, là, la jeune personne qui désinfectait la chemise que j'ai essayée faisait ça discrètement en parlant avec une autre vendeuse, puis on la comprend, là, son métier c'est pas scientifique, là, elle vend des vêtements, puis c'est bien correct, sauf que j'avais pas l'impression que c'était la désinfection à 100%. Il était pressé aussi, il y avait beaucoup de monde. Mais voilà, là, Madame Borges de Silva, par rapport à ces mesures, néanmoins, je pense que plusieurs centres commerciaux, plusieurs commerces, comme je le disais au début de l'émission, là, les appliquaient déjà très, très bien. Avant, on parle de la distanciation, on parle des files d'attente, on parle du nombre de personnes maximales à l'intérieur des commerces. En classe, ça changera pas grand-chose. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit un propriétaire de centre d'achat auquel on a parlé, là, que pour eux, bon, écoutez, là, ils faisaient sensiblement ça. La seule chose qui va changer, c'est qu'ils vont afficher le nombre de personnes, vont mettre des pancartes.
Mais je me pose quand même la question. Moi, j'ai perçu, mais là, c'est une impression personnelle et j'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'ai perçu un relâchement entre le début de la pandémie et, qui a eu lieu au cours de l'été et au début de l'automne.
Mais je pense que oui, il y a moins d'agents de sécurité, il y a moins de personnes qui contrôlent, bien sûr.
Puis on voit moins de files d'attente aussi devant les magasins. Donc, est-ce que les gens fréquentent moins les magasins ou est-ce que les mesures ont été relâchées sur le nombre de personnes à l'intérieur? Je pense aux grands centres, d'achat précisément, là, ou aux grandes chaînes des grands centres commerciaux, pour pas donner de nom. On voit qu'il y a du monde dans ces magasins-là. Là. Et la distance n'est pas respectée pour les avoir fréquentés quelques-uns dernièrement, particulièrement la fin de semaine. Donc, il y a des mesures absolument à retirer là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est une très bonne idée que la ministre Guilbeault les rappelle, ces mesures-là, parce qu'on est à risque. Plus on a de monde dans un lieu, plus on a de chances d'être exposé au virus et de l'attraper.
Puis en même temps, il faut les appliquer. Puis encore faut-il qu'il y ait des gens qui aient contrôlé tout ça. La ministre Guilbeault suggérait d'engager des gardiens de sécurité au privé. Ça coûte très, très cher. La police ira certainement pas s'en mêler. Ils n'ont pas de temps. Fait qu'en clair, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? En tout cas, moi, je doute fortement. Et là, ma peur, c'est que les gens se garochent avant la mise en place des mesures vendredi. Ça dépêche d'aller faire leur magasinage.
Mais là encore, c'est toute une question de gestion de risque individuel. C'est à chacun de se dire est-ce que j'ai le goût de prendre ce risque-là? Est-ce que j'ai le goût de me garocher dans les magasins? Est-ce que c'est vraiment important pour moi d'aller acheter du stock, je sais pas quoi, des marchandises, des
mais surtout
cadeaux,
qu'on peut faire
jouets.
Ça en ligne. On peut tout faire ça en ligne maintenant.
Tout à fait. Alors, à chacun de prendre ses risques et d'être responsable des risques qu'il prend. Et là, en tout cas, moi, j'ai envie d'inviter les gens à arrêter de compter sur le gouvernement et ce paternalisme-là du gouvernement. Il faut qu'on soit conscient des risques qu'on prend et arrêter de dépendre des mesures du gouvernement. Soyons responsables et assumons les risques qu'on prend quand on va s'exposer comme ça dans des centres d'achat où il y a énormément de monde, certaines personnes portent mal le masque, se lavent mal les mains, on est à moins de 2 mètres très souvent de plusieurs personnes inconnues. C'est dangereux quand même.
Ouais, puis en fait, c'est plate de voir que la plupart, beaucoup de personnes attendent la tape ses doigts, tu sais, pour se dire c'est beau, j'irai pas. Puis ça, on n'a pas parlé non plus de la qualité des différentes solutions, les solutions de désinfection là qui sont placées aux entrées des magasins. Ça coûte super cher là, pour les commerces de placer ces solutions-là. Puis je suis absolument certaine que dans certains commerces, les solutions qui sont placées à l'entrée, ils sont pas tout à fait 100% efficaces. Il y a des qualités aussi dans ce type de solution-là. Moi, j'ai l'impression que souvent, on fait le choix le plus économique puis qu'on se bat pas trop des détails.
Mais ça, il faudrait faire une étude là-dessus parce que j'ai pas analysé les solutions. Mais j'ai aucune idée, mais c'est possible que oui, comme vous dites, comme ça vaut très cher, il y a des personnes qui, en fait, des magasins qui prennent des solutions moins chères ou moins efficaces. Ça, j'ai aucune idée là-dessus. Je pourrais pas m'avancer. Il faudrait faire une étude. Ce serait intéressant d'ailleurs.
Ben oui, puis on avait nos collègues de JE qui avaient fait un reportage un peu plus tôt il y a quelques semaines sur justement les nouveaux joueurs dans cette industrie-là, Santé Canada, qui a abaissé entre guillemets ses exigences. Donc beaucoup de personnes sentant la manne d'argent se sont lancées dans la fabrication de ces gels-là. Et ce qu'ils ont démontré, c'est qu'ils n'étaient vraiment pas tous fabriqués de la même façon et que leur efficacité était assez relative selon l'endroit où ils étaient fabriqués. Bref, on s'en va du côté du vaccin. Je pense que c'est la chose qu'on attend. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait pas avoir. Tout le monde attend ce vaccin-là comme si c'était la solution miracle. Et là, ce matin, je suis un peu tombée en bas de ma chaise quand j'ai lu dans différents médias on s'en doutait là, que le vaccin apporterait pas nécessairement un retour à la normale tout de suite. On en a déjà parlé ensemble. Mais que deux, et là, c'est surtout ça, le vaccin n'empêcherait pas d'attraper la COVID?
Mais non, en effet, le vaccin en fait va surtout permettre de réduire, de minimiser le développement de symptômes graves ou sévères, particulièrement pour les personnes vulnérables. Mais par contre, c'est pas clair pour la transmission, à savoir s'il va permettre d'empêcher la transmission pour une personne qui sera vaccinée, qui sera quand même touchée par la COVID. Et c'est pas clair non plus aussi la période d'immunité. Donc, en fait, on risque d'avoir beaucoup de personnes asymptomatiques qui seront vaccinées, mais qui transmettront la COVID peut-être à d'autres personnes qui, elles, ne le seront pas. Donc, et qui, en fait, sans être des personnes vulnérables à risque, admettons, de 70 ans et plus, n'auront pas eu le vaccin, mais vont du coup avoir développé des symptômes comme des symptômes grippaux embêtants, là, c'est-à-dire 2 semaines au lit par exemple, mais sans avoir à être hospitalisé. Donc, il faut pas voir le vaccin comme une solution miracle qui va nous permettre de jeter les masques aux poubelles, arrêter les principes de distanciation, de minimisation du nombre de contacts. Et faire des gros parties là. Non, malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps avant de pouvoir revenir à une vie de 2019, si je peux dire.
Je suis déprimée. Je suis vraiment déprimée. Oui. C'est mieux que rien, mais c'est presque rien. Sérieusement.
En fait, ce vaccin-là va surtout permettre d'éviter d'éviter les décès liés à la COVID et d'éviter aussi de surcharger le système de soins et donc de pouvoir continuer de prendre en charge les personnes qui ont des besoins autres de santé autre que pour la COVID. Vous avez toutes ces personnes qui sont en attente pour des chirurgies ou pour des cancers, etc.
Oui, ça, c'est très préoccupant.
Oui, on va pouvoir enfin s'en occuper grâce au vaccin, mais ça ne veut pas dire qu'on va réduire, qu'on va supprimer le masque dès l'été prochain, quoi.
Mais de toute façon, entre vous et moi, je pense que même si on nous disait demain matin, à go, c'est beau, bas les masques, c'est correct, je pense que ça prendrait quand même un petit temps avant qu'on retrouve confiance en nous. Puis là, c'est sans compter qu'il faudra vacciner le plus grand nombre de personnes possible si on veut que ça fonctionne. On sait que les vaccins n'arriveront pas si vite que ça et pas en si grand nombre non plus, là.
Tout à fait. Le Canada n'étant pas un producteur, c'est sûr qu'il va falloir... Il y a des ententes qui ont été signées par le gouvernement canadien. Donc, on va avoir accès à certains vaccins, peut-être moins vite que les pays producteurs, évidemment. On va pouvoir, suivant la procédure qui a été définie par le gouvernement, vacciner les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé en priorité. Mais la population ne sera pas vaccinée au complet dans 6 mois, c'est sûr. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il semble y avoir des personnes qui sont un peu plus réfractaires au vaccin. Alors, moi, je les invite à y réfléchir, d'autant plus si ce sont des personnes vulnérables, parce que c'est en se vaccinant qu'ils vont minimiser les risques d'hospitalisation et de décès.
On parle de 700 000 doses qui seraient administrées au Québec d'ici au 31 mars. Roxane Borges de Silva, merci. Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.